Oui, j'accepte les excuses du père. Mais par contre, guérir des blessures, ça prend plus que des excuses.
We should have done more and could have done more, and so I apologize for that.
Bonne fin de journée, tout le monde. C'était à 14h42 précisément. L'avion du pape François s'est posé sur la piste de l'aéroport Jean Lesage à Québec pour une visite historique en sol québécois. Avant de monter à bord de sa pape mobile, le Saint-Père a été accueilli en fait par de nombreux dignitaires, dont le premier ministre du Québec, François Legault, que vous voyez, qui est venu donc le saluer. Le pape François poursuit comme ça son pèlerinage pénitentiel, comme il l'appelle, qui va l'amener ce soir sur les plaines d'Abraham, où on va aller retrouver d'ailleurs ma collègue Laurence Royer, qui est sur place. Bonsoir, Laurence.
Bonsoir, Michel.
Le pape est attendu sur les plaines dans une dizaine de minutes. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde?
Un peu plus qu'une dizaine de minutes. Il est attendu ici vers 18h15. Il y a au moins quelques milliers de personnes ici attroupées le long du parcours que le pape va emprunter là, avec sa pape mobile, donc vers 18h30, comme je le disais, parce qu'il y a eu un peu de retard là, dans les activités du pape dû à des retards sur les vols aujourd'hui. À l'heure où on se parle, il est à la Citadelle en train de rencontrer le premier ministre Justin Trudeau, la gouverneure générale Mary Simons aussi. Et dans les prochaines minutes, là, il doit prendre la parole, s'adresser aux Canadiens. Son allocution va d'ailleurs être diffusée sur les écrans géants qui sont ici. On sait qu'il y a de nouvelles excuses qui sont attendues par les survivants des pensionnats autochtones. Ce serait une preuve que l'Église veut réparer les torts qu'elle leur a fait subir pendant plus d'un siècle. Ça permettrait aussi de poursuivre leur guérison. Il y a d'ailleurs plusieurs membres des communautés autochtones qui sont présents ici. On ne sait pas si on aura de telles excuses, mais du moins, je suis certaine qu'ils auront leur intention.
Des excuses, probablement des actions annoncées. Ça, c'est ce qu'on attend, puisque bien des Autochtones attendent. Déjà, il y a des gens qui ont pu l'apercevoir à sa sortie de l'aéroport un peu plus tôt.
Oui, tout à fait. Oui, donc tu l'as dit, il a été accueilli par une délégation à sa sortie de l'aéroport, des survivants, des pensionnats autochtones, des dignitaires, des élus, tu l'as dit. Mais quand il est sorti de l'aéroport, il y avait de nombreuses personnes, encore une fois, quelques milliers de personnes qui étaient attroupées le long de son trajet vers la Citadelle, donc sur la route de l'aéroport, sur la Grande Allée également. On a parlé à certains d'entre eux.
L'arrivée du pape, ça n'arrivera pas souvent dans une vie, puis c'est un événement unique.
Moi, je viens voir le pape parce que c'est historique, c'est une première pour moi. Ça restera dans l'histoire que le pape se déplace pour venir au Canada, à Québec, pour demander pardon.
C'est une personne qui est spéciale, là, t'sais. C'est quelqu'un de spécial.
Je trouve ça bien que le pape puisse visiter le Québec. Très important de venir le voir pour en personne. Oui.
Moi, je pense que sa visite, c'est un exemple pour nous d'humilité, de charité et de pardon, de miséricorde, non?
J'ai une attente. Que les gens comprennent que cet homme-là, c'est un homme de cœur.
Bon, et c'est demain le moment le plus attendu de sa visite avec la messe à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré.
Oui, exactement. Le pape aura une grosse journée demain également, donc à 10 h, cette messe qu'il doit présider. Il y aura environ 1600 personnes à l'intérieur de la basilique à Sainte-Anne-de-Beaupré, des dignitaires, des membres des communautés autochtones également. Il y a environ là, 10 000 personnes qui sont attendues également à l'extérieur où la messe sera diffusée sur des écrans géants. Une messe qui sera également diffusée là, sur d'autres écrans géants situés sur les plaines d'Abraham ici à Québec.
Merci beaucoup, Laurence. On te retrouve un peu plus tard. Les dirigeants d'Hockey Canada étaient de retour devant le comité permanent du patrimoine canadien aujourd'hui. Puis on y a appris en fait que la plus grande fédération sportive du pays a versé des millions et des millions de dollars en secret à des victimes alléguées de crimes sexuels. Bonsoir Louis-Philippe.
Bonsoir Michel.
Tu as suivi, toi, ces audiences aujourd'hui. On se rend compte que le scandale sexuel de 2018, bien, c'est loin d'être un cas isolé.
C'est probablement l'information la plus importante de ces témoignages qui ont duré 4 heures aujourd'hui. Depuis la fin des années 80, Hockey Canada a signé des ententes à l'amiable avec 21 personnes dans 21 cas d'abus sexuels allégués pour un total de 9 millions de dollars. On peut aller voir les détails de ces ententes. Il y a 9 cas qui ont été où l'argent a été pris des fonds, du fameux fonds spécial qui a permis de payer les victimes pour un total de 7,6 millions de dollars. Dans les 12 autres cas, bien, les assureurs qui ont déboursé 1,3 million de dollars. Il faut quand même préciser, Michel, que le 2/3 de ce montant est lié à l'affaire Graham James, un entraîneur accusé accusé de multiples agressions sexuelles. Mais malgré ça, à plusieurs reprises, des députés qui ont dénoncé cette manière de faire, le manque de transparence, surtout que la bonne partie de ce fonds spécial vient des cotisations, donc des membres, des parents. Hockey Canada, bien, qui s'est défendu en disant que l'objectif de ces ententes était de soutenir les victimes.
Jusqu'à aujourd'hui, on a vraiment l'impression que vous avez davantage tenté de protéger l'image. C'est vraiment ce qui ressort.
And I'm wondering if you agree that by having a fund, it perpetuates the problem.
So I can understand that the parents aren't happy. I wouldn't be happy as well. This money is used to support the victims of those individuals, not the perpetrator. And so we feel very strongly that we need to support those victims.
Bon, Louis-Philippe, malgré l'indignation, les dirigeants d'Hockey Canada s'accrochent à leur poste.
Bien, malgré le fait que les députés, peu importe leur parti politique, ont dénoncé le fait que Scott Smith désire rester en poste, ont également dit qu'il faut un changement au sein du conseil d'administration, bien, Scott Smith refuse de partir. Il dit qu'il est là pour réorganiser, faire cette réforme et qu'il est la bonne personne pour y arriver.
Visiblement, l'argent achète tout au sein d'Hockey Canada, qu'il peut y avoir des gens au-dessus des lois, ne serait-ce que symboliquement, vous n'êtes pas habilité pour pouvoir mener à bien les changements profonds qu'on a à faire.
In 2018, we should have done more and could have done more and could have done things quicker. And so I apologize for that. I'd like the opportunity to show Canadians what we have done. I'd like a period of time to be able to do that. And I'm more than prepared to be held accountable to that.
Prochaine étape, Michel, bien, c'est attendre les conclusions des enquêtes criminelles et indépendantes concernant ce viol collectif allégué de 2018.
Merci beaucoup, Louis-Philippe. Bien, on dirait qu'au lieu de répondre aux questions, Scott Smith en soulève encore plus. Bonsoir, Ray.
Salut, Michel.
Collaborateur sport et affaires avec nous ce soir. C'est assez scandaleux ce qu'on a entendu aujourd'hui. À chaque fois qu'on entend des détails, on n'en revient pas. On parle d'un fonds qui a servi, donc, oui, à compenser là, des victimes alléguées, mais c'est un fonds qui a été constitué à partir des cotisations de jeunes Canadiens et de leurs parents.
Des frais d'inscription de jeunes qui veulent jouer au hockey, qui ont confiance en Hockey Canada, en toutes les fédérations provinciales aussi qui se rapportent à Hockey Canada. Michel, c'est pas juste scandaleux, c'est très décevant comme citoyen dans notre univers d'aujourd'hui d'être témoin de leadership de ce niveau. Qu'on tente même d'aller expliquer avec toutes sortes de raisons et d'excuses. Non, mais c'est incroyable. Ce sont des individus avec beaucoup d'expérience dans ce métier-là, depuis des dizaines d'années en place avec Hockey Canada, qui ont quand même jugé que leur approche était la bonne.
1989, ça a commencé là, c'est ce qu'on comprend. Comment on a pu cacher ça pendant des années, puis que c'est aujourd'hui que ça éclate, tous ces, qu'on apprend toutes ces histoires-là? C'est quoi? C'est la culture même du monde du hockey où ce qui se dit en chambre reste en chambre des joueurs, on garde le silence, on accepte de rien dire?
Il y a plusieurs facteurs, Michel, puis ce sont certainement des bons points. La culture de hockey, de sport en général, la culture d'entreprise dans plusieurs cas, parce qu'on est témoin de situations comme ça dans beaucoup d'industries différentes. Mais en même temps, comme un des députés l'a mentionné, c'est une question d'argent, une question de pouvoir et d'influence. Mm-hmm. C'est une question de prestige, d'aussi l'importance de se protéger. C'est pour ça que Scott Smith veut rester en poste. Il veut protéger, il veut se donner une chance lui-même de pouvoir peut-être faire le virage puis tourner ça. Mais c'est pas
pourtant, ça fait longtemps là, qu'il
exactement.
Est dans les hautes instances.
Ça fait longtemps qu'il est dans un poste là. Très important, numéro 2 ou numéro 1.
Est-ce qu'il devrait partir,
selon
toi?
C'est sûr qu'il faut qu'il parte. Puis non seulement lui, c'est un ménage complet qui est nécessaire. Parce que c'est pas juste les dirigeants, là, les deux, trois en haut. Il y a aussi des dirigeants pour l'équipe nationale professionnelle, pour l'équipe nationale junior, qui ont les mains sur ces individus-là et qui gèrent leur programme. C'est plus que deux, trois individus à Hockey Canada. C'est beaucoup de seniors qui ont eu la responsabilité puis qui ont failli à la tâche.
Est-ce que quelqu'un est en pouvoir de le faire quitter?
Oui, bien ça, c'est la question. Est-ce que c'est le gouvernement fédéral? Est-ce que c'est Sport Canada? Est-ce que c'est Mme la ministre Saint-Onge? Honnêtement, il va falloir que les morceaux continuent de tomber en place. On n'a pas fini d'être surpris dans les prochaines semaines. Puis à quelque part, quelqu'un va devoir devenir l'autorité.
Bon, est-ce que la ministre Saint-Onge pourrait dire, bien, savez-vous quoi, si on ne change pas la tête de l'organisation, il n'y en aura plus de financement. Là, ce sera...
Ouais, mais je ne veux pas me prononcer pour elle, mais je pense que oui. Je pense qu'à quelque part, ça va prendre quelqu'un qui est une tierce partie neutre, objective, qui n'est pas impliqué dans le quotidien de ça, qui va venir faire le ménage de ça, puis régler, puis recommencer à zéro, Michel.
Peut-être un ménage dans les hautes sphères de l'organisation, mais il va falloir qu'il y ait un ménage dans la culture, vraiment.
Absolument. Un changement de culture de A à Z.
Complètement. Mais on en reparle. Merci beaucoup, Ray.
Merci, Michel.
Aux États-Unis, maintenant, Joe Biden a reçu une bonne nouvelle, lui, aujourd'hui. Il a reçu un test négatif à la COVID-19. C'est son deuxième de suite. Ça veut dire qu'il peut sortir de son isolement après 5 jours de confinement. Le président américain a été traité avec du Paxlovid, vous savez, ce médicament antiviral, et ça semble lui avoir été efficace. Il a eu seulement des symptômes légers. Il a quand même porté un masque pour... Il va porter un masque, en fait, pour les 10 prochains jours. Les deux dernières condamnations de policiers dans le dossier du meurtre de George Floyd ont été prononcées aujourd'hui. Les deux policiers ont été reconnus coupables d'avoir violé les droits civiques de l'homme afro-américain. Ils seront derrière les barreaux pour 3 ans et 3 ans et demi, respectivement. Survenu en mai 2020, le meurtre de George Floyd avait provoqué des manifestations partout dans le monde. C'est un drame horrible qui est survenu la nuit dernière à Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie. C'est un homme qui a poignardé sa conjointe et son fils, un adolescent. On va aller rejoindre Sabrina Rivet, qui est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir, Sabrina.
Bonsoir, Michel.
Donc, dernière nouvelle, la femme repose toujours dans un état critique à l'hôpital?
Oui, état critique, mais stable, c'est ce que vient de me confirmer la Sûreté du Québec. Et pour ce qui est de l'adolescent qui a été poignardé, eh bien, lui, heureusement, ne craignerait plus pour sa vie, malgré le fait qu'il ait subi des blessures quand même assez graves. Alors, je me trouve justement sur la rue où s'est produit ce drame-là la nuit dernière, donc vers 2 heures du matin, dans une résidence de la rue du Billat à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc en banlieue de Montréal. Alors, pour une raison encore inconnue, il y a un homme de 48 ans qui est un policier de la Gendarmerie royale du Canada qui est affecté aux délits commerciaux, qui aurait d'abord poignardé sa conjointe pour ensuite s'en prendre à son fils, qui est un adolescent. Et pendant le drame, selon mes informations, bien, il y a une fillette d'à peine 8 ans qui se trouvait à l'intérieur de la résidence. Et ce que j'ai appris, c'est que c'est le suspect lui-même qui aurait téléphoné au service d'urgence, donc au policier du service de police de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, pour les aviser du drame qui venait de jouer, en fait, dans cette résidence. Et lorsque les policiers sont arrivés sur place, eh bien, ils ont retrouvé l'homme de 48 ans à l'extérieur de la résidence avec un objet tranchant, donc un couteau à la main. Les policiers auraient tenté de l'intercepter, mais malheureusement, en vain. Donc, c'est à ce moment que des coups de feu ont été retentis. Donc, les policiers qui ont tiré en direction du suspect et qui l'ont abattu, il a été transporté à l'hôpital, là où son décès a été constaté. Donc, évidemment, tout ça, ça a causé un émoi dans le voisinage. Les gens qui ont entendu des coups de feu cette nuit, qui sont ensuite sortis à l'extérieur pour tenter de comprendre ce qui s'était passé. Alors tout de suite, je vais vous laisser entendre un voisin, justement, qui était sur les lieux.
J'ai sorti dehors, puis j'ai vu, dans le fond, là, mon voisin qui était étendu par terre, puis il se faisait réanimer là, par les policiers. Là. Il essayait de le réanimer. Là. Mm-hmm. Fait que,
vous le connaissiez un peu ou...
Bien, on le connaissait comme le voisinage, là, dans le sens que bonjour, oui, on se parlait. Des fois, on parlait de terrassement parce qu'il faisait son terrassement. Puis j'ai ma fille aussi qui était avec sa fille dans sa classe. Fait que, tu sais, les enfants se côtoyaient. Là.
Bon, il y a eu mort d'homme pendant cette opération policière, donc le dossier est entre les mains du Bureau des enquêtes indépendantes.
Exactement comme un suspect a été abattu lors de l'opération policière. C'est donc le BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes, qui se charge de faire la lumière sur les circonstances de l'événement. Bien sûr, donc, le BEI sera assisté de l'unité des crimes majeurs de la Sûreté du Québec pour tenter de comprendre ce qui s'est passé cette nuit, donc vers 2 heures du matin, dans cette résidence de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, on va continuer de suivre, évidemment, l'évolution de cette nouvelle pour vous aujourd'hui.
Merci beaucoup, Sabrina. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a haussé son taux directeur de 75 points de base aujourd'hui, ce qui le porte en fait entre 2,25 et 2,5 son niveau le plus élevé depuis 2018. La Fed a agi en sens afin, bien sûr, de stabiliser l'inflation. Le taux directeur sera révisé à nouveau en septembre. Et l'inflation, qui est notamment causée par la guerre en Ukraine, affecte bien sûr notre économie ici au pays, on en parle régulièrement. Les engrais en provenance de la Russie coûtent beaucoup plus cher aux agriculteurs canadiens qui vont devoir inévitablement refiler la facture à qui? Bien, aux consommateurs, comme nous le dit Emmanuel Lerouneka.
Ici, c'est un champ de blé qui est destiné à la production de semences. C'est un élément qui est important d'un point de vue là, politique et social de soutenir le peuple ukrainien. L'élément manquant là-dedans, c'est qu'en date d'aujourd'hui, c'est seulement le Canada qui a imposé là, une taxe à l'importation de produits russes. Et pour l'agriculture de l'Est du Canada, ça représente la saison 2022 un montant qui dépasse les 40 millions de dollars.
Moi et mon frère, on est la cinquième génération à exploiter les terres de la famille. On sème du maïs, du soya, de l'avoine ainsi que des haricots secs. Au niveau de la production d'engrais, la Russie est un joueur important au marché mondial. C'est peut-être le troisième ou quatrième plus important joueur, fabricant mondial d'engrais. Pour le Québec, l'Est du Canada, c'est tout près de 700 000 tonnes d'engrais par année qui sont importées en provenance de la Russie, ce qui est à peu près 85-90 % du volume importé qui provient de la Russie. Le tarif de 35 % pour nous, dans notre cas, c'est un montant qui fait environ supplémentaire de 10 à 12 000 $ comme conséquence directe. Ça fait en sorte que certaines cultures cette année qui vont probablement atteindre ne seront pas rentables pour les producteurs.
Et le regroupement des producteurs de grains du Québec, ça regroupe là, plus de 9 500 membres. Puis on a une valeur de production à la ferme là, qui dépasse les 1,5 milliards sur une base annuelle. Et on crée de façon directe 20 000 emplois. Puis à moyen terme, si la situation perdure, l'agriculture canadienne ne sera pas compétitive. Puis on va avoir des pertes là, de marché là, au profit des autres pays. Quand tu as perdu un client, c'est difficile de le récupérer.
Au ministère fédéral de l'Agriculture, on se dit extrêmement conscient de l'impact du conflit ukrainien sur les agriculteurs québécois. Pour soutenir les agriculteurs, le gouvernement fédéral a entre autres apporté des changements au programme de paiement anticipé afin de verser la totalité de l'avance de 2022 en un seul paiement et afin d'augmenter la portion sans intérêt pour la faire passer de 100 000 à 250 000 $.
Malheureusement, cette annonce-là, ça ne compense pas l'impact supplémentaire là, des tarifs que les tarifs font sur notre organisation, sur notre entreprise. Par exemple, on peut avoir jusqu'à 250 000 sans intérêt. Ça représente 4 à 5 000 d'économies d'intérêt, alors que le tarif doit coûter 10 à 12 000 $ supplémentaires. On n'a pas de visibilité si ce tarif-là va être encore là l'an prochain. On ne sait pas si le produit, l'engrais russe, va être banni aussi. Puis on est dans le moment de l'année où on commence à penser au réapprovisionnement pour la saison 2023. Fait qu'on sait que la Russie, c'est un joueur probablement auquel on n'aura plus accès à ses produits. Fait qu'on doit se tourner vers d'autres joueurs sur d'autres marchés sans savoir si la disponibilité va être là, à quel coût ça va se faire aussi.
On revient sur la visite du pape. L'ancien maire de Montréal, Denis Coderre, est un des ambassadeurs qui avait comme mission de mettre sur pied des campagnes de financement pour la visite du pape. Je lui ai parlé un peu plus tôt aujourd'hui. Bonjour, M. Coderre.
Bonjour.
Comme ambassadeur, vous devez être fier, hein? Vous aviez un objectif, si j'ai bien compris, de 3 millions de $, puis vous l'avez dépassé il y a 5 jours. Comment vous expliquez la réponse assez extraordinaire des Québécois?
Bien, il y a plusieurs enjeux. Les gens viennent pour des raisons de foi, pour des raisons de solidarité. C'est la question de la réconciliation. C'est la question autochtone. C'est un moment charnière dans l'histoire canadienne, québécoise et des municipalités. C'est le vivre ensemble, se retrouver. Toutes les réponses sont bonnes, mais je crois aussi que le messager, c'est le message. On aime ce pape. Pour moi, c'est comme un prêtre ouvrier qui est vraiment connecté. C'est pas quelqu'un nécessairement de l'establishment. Puis on voit cette authenticité, puis le message. Passe. Et puis, pour moi, ce qui est aussi important, c'est qu'on dirait, on n'a jamais entendu parler autant de la réalité autochtone. On voit vraiment là que c'est le début du siècle de réconciliation. Alors, mais pour guérir, il faut commencer par reconnaître, puis c'est ce qu'on vit présentement.
Je parlais d'argent, ça sert à tout ce qui entoure la visite, sauf évidemment la sécurité. Compte tenu du contexte dont vous nous parlez, ça va être un défi de trouver le juste milieu entre le côté quand même un peu festif du passage du pape pour bien des gens et le côté solennel avec ses excuses extrêmement importantes qu'il vient transmettre.
Il y a un côté de célébration, il y a un côté de libération, mm-hmm. il y a un côté de rencontre. Et le pape lui-même a dit que c'était pénitentiel. Donc, il faisait acte de présence pénitentielle. Il reconnaissait, c'était le début de cette longue marche, la fin d'un douloureux chapitre pour en amorcer un autre, où tout le monde ensemble, main dans la main, allait travailler. Mais c'est pas de... Il faut reconnaître le passé, mm-hmm. faut pas qu'il soit impuni. Mais on est rendu ailleurs. Et je pense que ça, le message passe bien. Puis à tous les niveaux, parce que nous, notre rôle, c'est évidemment la question de transport des communautés, la question de la transmission de l'événement, toute la logistique et puis les scènes et tout ça. Alors, c'est ça que ça coûte, là.
Parlez-nous un peu, justement, de l'ambiance, peut-être au sein de l'équipe d'organisation, des bénévoles. Il y a combien de personnes qui travaillent bénévolement dans...
Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs centaines. Aujourd'hui, moi-même, je suis bénévole. Je pense que ce qui est important, c'est un acte aussi de responsabilité, de civisme. C'est aussi un acte de foi pour certains. C'est un moment charnière, comme j'ai dit. Donc, tout le monde a vraiment mis la main à la pâte. Et puis, c'est un beau moment de communion puis de symbiose.
En terminant, on parle de ses excuses qui étaient attendues, qu'il a répétées. Mais plusieurs attendent maintenant des actions. Est-ce qu'on doit s'attendre, peut-être ce soir ou demain, à ce que le pape annonce des actions concrètes dans le cadre de cette réconciliation?
Bien, on va lui laisser à lui, mais il faut peut-être comprendre qu'en Alberta, c'était le moment important pour la question des excuses, la question du pardon. Le Québec, ça va être le début du cheminement vers la réconciliation. Il répétera pas nécessairement la même chose partout, mais on va voir qu'il y a un crescendo. Donc, c'est l'arbre qui devient forêt. Et puis, on va voir par la suite ce qui va arriver. Mais ce que je sais, puis connaissant le pape, ce n'est que le début.
Des mots, en tout cas, qui sont attendus, qui seront écoutés et, bien sûr, analysés. Monsieur Coderre, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
Quoi, merci beaucoup.
On retourne à Québec, retrouver ma collègue Laurence Royer sur les plaines d'Abraham, où le pape est attendu au cours des prochaines minutes. Puis ce qu'on comprend, c'est qu'il va donner un discours là, au cours des prochaines minutes.
Oui, exactement. Donc, le pape est toujours attendu ici. Aux dernières nouvelles, il est toujours à la citadelle avec le premier ministre Justin Trudeau, la gouverneure générale Mary Simons, qui est d'ailleurs la première gouverneure générale d'origine autochtone. Donc, on imagine que c'est une rencontre assez significative pour elle. Donc, oui, un discours qui est attendu de la part du pape à la citadelle, qui sera retransmis sur les écrans géants ici, sur les plaines d'Abraham. Puis le pape devrait venir se promener avec sa pape mobile sur les plaines, saluer les gens. Puis ensuite, il va retourner à l'archevêché où il va passer la nuit avant d'aller tenir sa messe là, demain à Sainte-Anne-de-Beaupré.
Et bien sûr, tu seras là pour couvrir cette visite du pape. Merci beaucoup, Laurence. Laurence qui sera au fil 22h avec Étienne. Bonsoir, Étienne.
Bonsoir, Michel.
Bien sûr, tu vas analyser avec un invité ce soir.
Oui, Alexis Wawanoloat, les propos du pape qui vont être tenus ce soir, puis aussi à quoi on s'attend demain lors de la grande messe. Plusieurs promesses peut-être faites aux Autochtones, des annonces. On en parle avec notre collaborateur.
Va-t-il annoncer des actions concrètes de la part de l'Église? C'est ce qu'on surveille. Merci, Étienne. Merci d'avoir été avec nous. Excellente soirée. À demain.